Je sais pas vous, moi ça m'a donné envie de downloader des albums de Can, la musique à la fin. Alors quelque part tout a été dit, enfin surtout dans la première partie qui était la deuxième. Ceci étant, les choses ont un petit peu évolué depuis 2007 et j'aimerais revenir sur deux trois choses qui ont été dites ici, puis lancer tous les trolls dont on pourrait discuter ensemble et puis surtout qu'on puisse échanger sur tous ces sujets-là. Ce qui est vraiment l'élément fondamental de ce qui a été raconté ici pour moi, c'est qu'on a inventé cette gigantesque machine à copier, cette machine à copier planétaire qui s'appelle Internet et l'ensemble des technologies numériques qui sont rattachées, qui nous donne à tous donc cette capacité d'accéder à tous les contenus, services et applications de ce que l'on appelle Internet, mais également d'en publier. Et donc ce qui a véritablement changé, l'analogie était faite avec la presse à imprimer de Gutenberg, mais ce qui a véritablement changé, c'est qu'avec une presse à imprimer, il fallait un investissement initial assez considérable. On racontait que c'était les bourgeois d'Amsterdam, Genève, etc., qui étaient capables d'être les pirates de cette époque-là. Aujourd'hui, on a tous dans la poche un petit bout de plastoc et de silicium qui est une partie de cette gigantesque machine à copier qui nous permet à tous de réaliser nous-mêmes nos copies. Et c'est là que se trouve le point d'achoppement de ce conflit entre ces industries dinosaures et nous. C'est que lorsqu'ils vont poursuivre leur dogme de tenter d'interdire à tout prix la copie, ils vont tenter de nous interdire de faire des choses qui se font dans notre poche, qui se font dans notre salon, qui se font dans notre chambre à coucher, qui se font dans notre domicile, qui se font dans notre sphère privée. Et ces gens-là sont littéralement en train d'entrer dans nos sphères privées pour tenter d'empêcher des actes qui sont parfaitement naturels, qui sont parfaitement admis, qui sont parfaitement répandus, et surtout au sujet desquels ils ont toujours été incapables de démontrer sérieusement un quelconque préjudice. Alors on pourrait parler de cette question du préjudice, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que quand on va parler, que ce soit avec des responsables politiques, ou avec, je sais pas, avec des lobbyistes ou des gens qui sont, on va dire, avant tout des gens du business, c'est important de pouvoir leur répondre sur leur terrain qui est celui économique. Et donc, on nous dit, oui, vous avez comme la cassette VHS qui était l'étrangleur de Boston pour le cinéma, comme la cassette audio allait tuer la musique. Voilà, forcément, des gens qui partagent des fichiers sur Internet, ça va tuer. Ça va tuer, ça va tuer. Tout le monde va mourir. Les artistes vont mourir, la gueule ouverte dans le caniveau. De la musique, il n'y en aura plus. Du cinéma, il n'y en aura plus. On a entendu ça ad nauseam pendant les débats Hadopi. Il se trouve que si, de la musique, il n'y en a jamais autant eu. Du cinéma, comme Isabelle, tu viens de le dire, il s'est jamais aussi bien porté. 3 années record d'affilée d'entrée en salle en France. Et donc, non seulement il n'y aurait pas de préjudice, mais en plus, il y aurait peut-être même un bénéfice. Et c'est un certain nombre d'études qui, aujourd'hui, démontrent que les gens qui partagent le plus sont ceux qui achètent le plus, ceux qui dépensent le plus pour la culture, et c'est même une étude de l'Hadopi qui, il y a quelques semaines, a démontré ça. Donc, l'absurdité de leur raisonnement et la poursuite de cette logique extrême les poussent à venir nous attaquer, nous, individus, nous, leur public, nous, leurs meilleurs clients, jusque dans nos poches. Ils viennent jusque dans nos poches égorger nos films, nos disques. Et justement aux armes citoyens, j'allais y venir, c'était l'objet de ma seconde partie. Non, mais juste pour dire un petit peu comment les choses ont évolué depuis 2007. On le voyait dans Steal This Film 2, ils disaient ah, 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 les andouilles du disque, ils ont fait des procès, l'autre, et les procès, ça marche pas. On sait très bien, les procès, ça a pas marché. On s'est dit, on va dissuader les gens avec une menace de. Une charge financière et personnelle que peut représenter un procès, fail. Ça n'a pas marché. On a vu comment s'appelait le type de la MPA, je me souviens plus son nom, l'avocat affreux là, qui disait en fait ce qu'on va faire, c'est augmenter le coût de ce que lui appelle piratage, augmenter le coût du partage pour le rendre plus compliqué. Et ça fait littéralement voilà, une dizaine d'années qui sont étape après étape en train d'avancer sur ce chemin-là, et pour tenter, voilà, morceau par morceau, d'arriver, in fine, à nous empêcher de copier. Donc, ils ont essayé les procès, fail, ça n'a pas marché. Ensuite, c'est apparu en fait courant en 2006 dans l'examen de la loi DADVSI, donc l'ancêtre de l'ADOPI, cette notion d'une riposte graduée, où on allait faire participer les moyens de l'État pour, en quelque sorte, automatiser des décisions de justice, pour aller faire que ça aille plus vite, qu'il n'y ait pas à dépenser des frais d'avocat, des procès qui durent des mois, etc. Bon, là, ça a été annulé au niveau du Conseil constitutionnel à l'époque, en 2006. Du coup, Nicolas Sarkozy se fait élire. John Kennedy, qu'on a vu, le type avec un sourire carnassier qui disait « c'est pas ces clients-là dont qu'on veut, ces clients-là, on n'en veut pas ». Donc le président de l'IFPI, le syndicat international des éditeurs de disques, quand Sarkozy s'est fait élire, a dit avec lui « on tient notre champion, on tient quelqu'un qui va pousser nos idées ». Et ça n'a pas loupé, vous connaissez tous l'histoire, la mission Oliven, cher ami, comment combattre tous ces saligots qui font que tu ne vends pas cette galette de plastique, etc. etc. Et donc on se retrouve avec l'ADOPI, où là encore, dans une version un petit peu plus élaborée, un tout petit peu moins amateur que la précédente, mais quand même vachement beaucoup, on subvertit les moyens de l'État pour essayer de créer une espèce de forme de justice parallèle, une justice administrative, une justice au ras des pâquerettes, qui n'a pas besoin de présomption d'innocence, qui n'a pas besoin du droit à un procès équitable, qui n'a besoin de rien du tout. On sort la justice du droit pénal pour en faire une espèce de machin administratif. Et là, encore une fois, fail. Il nous a fallu un certain temps de campagne. On a crié dans le désert pendant très très longtemps, jusqu'à ce que, je peux pas m'empêcher de frimer avec ça, mais jusqu'à ce que le Figaro nous qualifie de fer de lance de l'opposition à la loi ADOPI, un titre dont je suis vraiment très très fier, qu'on arrive à en faire un enjeu de société, qu'on arrive à en faire un sujet politique, qu'on arrive à faire que des attaques viennent d'absolument partout, que le gouvernement n'arrive absolument plus à tenir ses troupes, que le truc explose en plein vol à l'Assemblée, se fait rejeter une fois, et se fait défoncer par le Conseil constitutionnel qui a enlevé le pouvoir de sanction de la ADOPI. Et la catastrophe, le Conseil constitutionnel, en rendant cette décision, j'hésiterai pas à qualifier d'historique, dit « la liberté d'expression implique la liberté d'accéder à Internet ». Nous, c'est ce qu'on disait depuis le début, mais ça va mieux en le disant, et surtout ça va mieux en l'écrivant dans la jurisprudence de la plus haute juridiction de France, le Conseil constitutionnel. Donc on a gagné ça, nous, dans la bataille ADOPI. C'est la plus haute juridiction d'un tout petit pays comme la France qui dit « Internet, c'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est Internet. » Donc, bon, au passage, on gagne ça. Le Conseil constitutionnel coupe la tête de l'ADOPI et dit « Non, tu ne vas pas ordonner de coupure d'accès. » Parce que pour restreindre des libertés fondamentales, en France, il faut un juge. Liberté fondamentale, restriction de liberté fondamentale, c'est l'autorité judiciaire. Donc, le gouvernement, au lieu de partir la queue basse en faisant caille-caille, et comme les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît, comme disait l'autre, revient avec une ADOPI 2 où il se dit « Ouais, pas de problème, il faut un juge, on va t'en remettre un de juge ». Et c'est là qu'on se retrouve avec une ADOPI 2 qui est péniblement en train de se mettre vaguement en place. Je vais passer les détails là-dessus. L'ADOPI 2, elle est morte-née. Elle est finie, foutue. Parce que justement, remettre le juge, ça veut dire qu'alors qu'on avait bossé dur pour se débarrasser du droit à un procès équitable, pour se débarrasser de la présomption d'innocence, pour se débarrasser de la charge de la preuve à l'accusation, maintenant ils vont faire leur joli petit dossier complètement vide et qui repose sur des relevés faits par des entreprises privées. Et ils vont aller devant le juge en disant « Monsieur le juge, tu veux pas le condamner celui-là ? » Et nous, on fait le pari que le premier juge va voir ça, il va le prendre, il va le mettre à la poubelle. Il va dire « Tu reviens avec des preuves. » Et qu'ils vont repartir, pour le coup, en faisant caille-caille. Et qu'ils le savent tellement, tellement bien aujourd'hui, qu'il y a de grandes chances qu'ils aillent même pas jusqu'à tenter de faire une première décision. Donc voilà, corrompre un gouvernement tout entier pour essayer de mettre un machin administratif qui va essayer de... Voilà, c'était une débâcle politique. Ça a pris 2 ans. Ils se sont pris des pains dans la gueule, pain sur pain sur pain sur pain, personne, point que personne voulait être ministre de la Culture, ils ont été obligés de sortir Frédéric Mitterrand. Donc, ça, comme méthode d'après, fail. Ça marche pas non plus. Et il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui est en train de réfléchir à un machin aussi absurde, à une usine à gaz comme l'ADOPI. Et donc, on pourrait s'arrêter là. Et on pourrait s'arrêter là et partager l'optimisme de nos amis vus ici qui disaient « Ouais, de toute façon, ils n'y arriveront jamais. Ils vont jamais arrêter l'innovation. Ils vont jamais arrêter le réseau. Ils vont jamais arrêter les nouvelles technologies, etc. » Et ben voilà, c'est là que les choses se gâtent. Parce que tout ce qu'ils disaient ici, est vrai à partir du moment où on continue de bénéficier de quelque chose qu'on a entre les mains qui s'appelle Internet. Si on est capable d'inventer le nouveau BitTorrent, le nouveau The Pirate Bay, si quand un Pirate Bay se fait fermer, il y en a 10 qui peuvent réouvrir ailleurs, c'est parce qu'on a tous, je vous l'ai dit, cette capacité non seulement à accéder au contenu, service et application, mais aussi à en produire et à en publier. Le mythe du Gus dans un garage n'est pas un mythe. C'est deux Gus dans un garage, en général, ils sont en paire, ils viennent par paire. C'est deux Gus dans un garage qui vont se gratter la tête, avoir une idée brillante, la noter sur un tableau blanc, et puis passer une nuit avec des hectolitres de café à créer un prototype, puis à le mettre sur un coin d'ordinateur dans la cuisine chez maman, et demander à leurs potes, vous voulez pas venir voir si ça marche, ce que vous en pensez, etc. Et de proche en proche, ouvrir jusqu'à devenir le prochain Google, le prochain Twitter, le prochain Facebook, le prochain Skype, le prochain tout ce que vous voulez. C'est véritablement comme ça que s'est créé Internet. C'est vraiment comme ça que toutes les innovations, les nouvelles technologies qui ont bouleversé notre utilisation d'Internet et des réseaux sont apparues. Et là, on arrive à un carrefour dans l'histoire d'Internet, dans l'histoire des technologies, où ces industries du divertissement, qui ont échoué à dissuader, qui ont échoué à couper l'accès au niveau des utilisateurs eux-mêmes, parce qu'il se trouve que c'est leur liberté d'expression qui est en jeu, vont maintenant essayer d'exercer leur influence au cœur du réseau. Et au cœur du réseau, ça veut dire chez les opérateurs, chez les gens qui soit fournissent de l'accès à Internet, Orange, SFR, Free, soit les gens qui fournissent des services, YouTube, Google, Facebook, etc. Et donc ça, c'est une tendance extrêmement lourde, et c'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir des petits gus comme Akilonet qui vont nous faire de l'Internet, du vrai Internet libre, qui repose sur des valeurs éthiques et qui repose sur des valeurs de respect des libertés fondamentales qu'on partage tous ici. Parce que le jour où Internet par Orange sera devenu un Minitel 2.0, le jour où Internet ressemblera à une espèce de télévision par câble, il sera grand temps tout simplement de reconstruire cet Internet, peut-être de le reconstruire dès le départ, et c'est là qu'on sera content d'avoir déjà des gens comme eux qui savent aujourd'hui comment on construit de l'Internet. Et pour vous dire à quel point je suis préoccupé par tout ça, donc que les industries du divertissement veuillent faire ça, c'est un fait. On pourrait se dire, ça pèse quoi? En France, la musique, c'est un milliard, un marché d'un milliard, donc c'est, je crois, un quart du budget du marché de la coiffure. Le film, c'est péniblement 3 milliards et quelques. Donc voilà, la musique et le film ensemble, ça fait à peu près l'industrie de la coiffure. Truc relativement modeste. Mais ils font beaucoup de bruit, mais ils ont une force de frappe médiatique considérable, mais ils aident les hommes politiques parfois à se faire élire. Donc ils ont une importance. Et surtout, ils sont extrêmement organisés. Ils ont des entreprises transnationales dont l'influence dépasse parfois celle des États. Et on a un exemple extrêmement flagrant de leur influence aujourd'hui. C'est un accord dit commercial, un accord qui s'appelle l'ACTA, l'Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Qui a entendu parler de l'ACTA parmi vous dans cette salle? Waouh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la moyenne, de l'ordre de 30%. Le Anti-Counterfeiting Trade Agreement s'est présenté donc comme un trade agreement, l'accord commercial anti-contrefaçon. Donc un trade agreement, c'est ces accords commerciaux qui sont habituellement des accords bilatéraux ou multilatéraux, où le Canada va avec la Côte d'Ivoire signer un deal disant voilà, on va vous acheter vos bananes et vous en échange vous allez acheter nos ceci et vous allez accepter de mettre tel machin dans votre loi, etc., etc. Là, c'est un accord multilatéral dans lequel les pays, principalement les pays riches de l'OCDE, discutent ensemble de nouvelles règles pour lutter contre ce fléau qui est les faux médicaments, les fausses pièces automobiles et le partage de fichiers sur Internet. Tout ça dans le même sac. Et donc ce truc négocié en secret pendant 3 ans, on a dû se baser sur des fuites issues de Wikileaks pour au début savoir ce qu'il y avait dedans et analyser ce qu'il y avait dedans et commencer à alerter les parlements nationaux, alerter le Parlement européen, alerter l'opinion publique là-dessus. Les négociations sont terminées depuis novembre 2010 et le 3 décembre 2010 a été publié le texte définitif de l'ACTA. Il sera présenté devant le Parlement européen quelque part autour de l'été, à partir de mai, on ne sait pas exactement quand, et il y aura une occasion historique de faire campagne pour faire rejeter ce machin, purement et simplement par le Parlement européen. Ça va être dur, mais il faut qu'on y arrive. Parce que dans ce texte, les 39 pays représentés, donc les 27 de l'Union européenne, se mettent notamment d'accord sur le fait d'imposer de nouvelles sanctions pénales. Donc de nouvelles peines de prison, qui normalement est quelque chose de la souveraineté des États. Là, par un artifice au sein des institutions européennes, on s'est démerdé pour, comme ça, de façon négociée par des fonctionnaires non élus, aller négocier que de nouvelles sanctions pénales soient imposées, et notamment des nouvelles sanctions pénales sur les intermédiaires, sur les gens qui aident la contrefaçon, et sur les gens qui aident la contrefaçon à une échelle commerciale. Et donc, à une échelle commerciale, ça veut à peu près rien dire, mais c'est décrit comme tout ce qui apporte un gain direct ou indirect. Donc, à peu près tout. Et donc, c'est une espèce de gigantesque, une espèce de bombe atomique qui est directement pointée sur ces intermédiaires techniques de l'Internet que je vous décrivais, donc les fournisseurs d'accès et les fournisseurs de services. Et dans un autre article plus loin de l'ACTA, il est marqué « Les signataires de l'accord mettent en œuvre la coopération entre les industries du divertissement et les intermédiaires techniques de l'Internet. » Donc on vous met une grosse bombe atomique en face de la tête et on vous dit « Tiens, Coco, tu veux coopérer ? Oui ou non ?» Et donc coopérer, ça veut dire bah, « Les méchants pirates, tu vas nous les couper de l'Internet. » Ou alors tu vas leur réduire leur débit. Ou alors tu vas leur filtrer tel ou tel ou tel site. Ou alors tu feras ceci, ou alors tu feras cela. Ça n'est ni plus ni moins que des polices privées du copyright. Transformer les intermédiaires en polices privées du copyright. Et c'est ça l'étape d'après, qui est non seulement demandée, mais en passe d'être obtenue par ces industries. Et je vous donne l'exemple de l'ACTA, mais également au niveau européen, il y a la directive IPRED qui va bientôt être sortie des cartons par le commissaire français Michel Barnier, et qui va exactement contenir ces choses-là. Il y a une consultation en cours, et dans les questions posées dans cette consultation, c'est écrit noir sur blanc. Pensez-vous qu'il faille augmenter la responsabilité des intermédiaires de l'Internet ? Pensez-vous qu'il faille criminaliser la contrefaçon à une échelle commerciale, etc., etc. Tout ce qu'on voit dans l'ACTA est déjà en cours de mise en œuvre au niveau européen. Donc, on a ces industries qui vont de plus en plus loin et qui vont jusqu'à tenter d'imposer le contrôle au cœur du réseau. Et on se dit, ouais, mais attends, c'est quelques petits milliards d'industries de rien du tout, ils font pas le poids face aux industries des télécoms. Ils font pas le poids face à toutes les industries, tous les bénéfices qui sont générés directement ou indirectement par Internet et les technologies numériques. Là où le bât blesse, c'est que les industries des télécoms elles-mêmes, aujourd'hui, commencent à s'apercevoir que cette perspective de contrôler le réseau au cœur pourrait leur apporter des masses de pognon. Et qu'au lieu de laisser à tout le monde l'accès à tout, pour une somme donnée par mois, pour un forfait, on pourrait dire hey, « Hé Coco, toi tu consommes vachement de YouTube. » En fait, YouTube c'est 5 euros par mois, désolé. « Hé toi là-bas, tu fais du peer-to-peer. Oh là là, tu sais combien ça nous coûte le peer-to-peer ? Bon, ben toi l'option peer-to-peer, ça va être 12 euros. Ah, et puis toi là-bas, t'as regardé beaucoup de porn. Ouais, alors le porn, ça, on facture au mégaoctet, donc tu nous dois 300 euros ce mois-ci. Etc., etc., etc. C'est des nouveaux business models qui seraient extrêmement lucratifs. Alors que tout le monde commence à de plus en plus utiliser Internet sur les réseaux mobiles, on a un prétexte idéal qui est de dire « Oh, mais bonne dame, ça coûte vachement cher à faire des réseaux mobiles. » Et puis vous savez, hein, les bandes de fréquences, bah, elles sont pas infinies. Hein, donc, ma bonne dame, au bout du compte, on va être obligé de restreindre, on va être obligé de discriminer le trafic. Eh ben non, on n'est peut-être pas obligé. Parce que si on discrimine le trafic, au bout du compte, c'est plus Internet. Quand l'opérateur vous dit « Ah non, non, ça c'est pas accessible, ça c'est plus cher, ça c'est moins cher, ça va plus vite, ça va moins vite », c'est pas Internet. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Internet c'est la possibilité pour chacun d'accéder à tous les contenus, services, applications de son choix. Donc si quelqu'un au milieu, quel qu'il soit, vous dit « Non, non, ça marche aussi, ça marche pas », c'est plus de l'Internet. Et donc que ce soit un opérateur télécom, parce qu'il est nostalgique de l'époque du Minitel, et qu'il a envie de se faire plus de blé, ou que ce soit Vivendi Universal, parce qu'ils ont l'impression que si tout le monde va aller mater les films d'Eisenstein ou de je sais pas qui, bah, ils iront plus voir le gros blockbuster, et du coup on fera plus le retour sur investissement, sur des productions, je sais pas combien de centaines de millions. Ou que ce soit le gouvernement tunisien, qui va empêcher l'accès à tel ou tel site web, on est exactement dans le même cas de figure où lorsqu'on vous restreint l'accès Internet, on restreint les libertés fondamentales, au rang desquelles la liberté d'expression, qui est une liberté, si j'ose dire, encore plus fondamentale que les autres. Et donc, dans tout ce merdier, la question, c'est que faire ? Comment agir en tant que citoyen ? Et c'est peut-être justement là le moment d'ouvrir la conversation. J'attends vos réponses à cette question-là, j'attends vos questions à ces questions-là, vos questions à ces réponses.
Pour enchaîner justement avec l'ACTA et la loi Hadopi, la loi LOPSI 2, tu sais où ils ont justement là sur... Tu peux en parler deux secondes ?
Je peux en parler deux minutes. Je vais faire ça en 2 minutes 30. Hein, 2 minutes. La loi LOPSI 2... Tiens, qui a entendu parler de la LOPSI ici ? Ouais, ça commence. Et qui a entendu parler de l'article 4 de la LOPSI sur le filtrage ? Nettement moins. La LOPSI, donc, vous le savez tous, c'est un gigantesque fourre-tout sécuritaire de, je crois, 142 articles. Donc ça va de l'expulsion des Roms à la vidéosurveillance qui se fait renommer en vidéoprotection. Les nouvelles polices privées qui cette fois-ci sont pas les polices privées de l'internet de l'Adopi mais qui sont dans la rue en vrai, tout un tas de joyeusetés comme ça au point qu'il y en a tellement dedans que je parcourais tout à l'heure la saisine au Conseil constitutionnel déposée par le groupe socialiste, ils ont oublié la moitié de ce qu'il y avait à mettre dedans. C'est terrifiant. Et donc dans la LOPSI il y a cet article 4 qui dit on va lutter contre la pédopornographie sur internet. Là, tout le monde est d'accord. Moi, le premier. La pédopornographie sur Internet, c'est infâme. Et il faut lutter contre ça. C'est même pas de la pornographie. C'est des représentations de scènes de crimes. Donc, avant tout, il faut lutter contre ces crimes-là. Et on est tous d'accord sur l'objectif. Sauf que, on vous dit, pour lutter contre la pédopornographie, on va mettre en place le filtrage des contenus sur Internet. Le blocage de l'accès à ces sites. Et là, c'est vrai que quand vous discutez, on a vachement eu de mal à faire passer nos messages. Quand vous discutez avec quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment ça marche Internet, et que vous lui dites bloquer l'accès au site, il dit bah oui, très bien, on va enlever les sites. Non, on ne va pas enlever les sites de l'Internet, on va bloquer l'accès. C'est-à-dire quelqu'un qui tente de regarder, on va mettre la main devant les yeux pour pas qu'il puisse voir. Mais le problème, on va le laisser. Donc d'un côté, c'est complètement hypocrite de prétendre régler un problème en le poussant sous le tapis et en mettant la main devant les yeux de quiconque le regarde. De l'autre, il est aussi facile que de bouger la tête pour finalement le voir quand même en contournant le filtrage. Et vous pouvez être sûr que les gars qui s'adonnent à ce genre de contenu savent d'ores et déjà comment contourner ces filtrages. Mais en plus de ça, ça s'avère complètement contre-productif parce que là où la vraie solution, la seule solution contre ce type de contenu est d'attaquer le problème à la source, et donc de faire enlever les contenus des serveurs où ils se trouvent, où qu'ils se trouvent, et il y a des accords de coopération internationale qui existent pour aller faire retirer les contenus où qu'ils soient dans le monde, mais les enquêteurs, on leur donne une solution clé en main, on dit « Chef, j'ai cliqué, c'est bon, on a réglé le problème. » Au lieu d'aller mettre en œuvre les moyens difficiles de faire jouer cette coopération internationale, d'enquêter, d'infiltrer les réseaux pour aller faire retirer les contenus, attraper les mecs qui les y mettent et surtout attraper les gens qui les produisent. Donc on va donner un prétexte idéal pour ne pas aller jusqu'au bout de l'enquête. Et en plus de ça, lorsqu'on va mettre un site sur cette liste noire, la police française va envoyer un signal au type qui opère ce site pour dire « Hé, il y a la police française qui t'a repéré, Coco !» Et de là, ce sera encore plus facile pour lui de bouger ailleurs pour se rendre encore plus indétectable. Donc du point de vue de l'efficacité même du dispositif, c'est une arnaque intellectuelle. Mais il faut un petit peu savoir comment fonctionne Internet pour le comprendre. Mais surtout, ça ouvre la porte à des dangers absolument terrifiants, au rang desquels le premier d'entre eux, c'est moi, ce que j'appelle la censure collatérale, c'est le surblocage, ou par exemple en essayant de bloquer www.pédoporno.blogspot.com, on va se retrouver à bloquer tout blogspot.com. En essayant de bloquer une vidéo sur YouTube, on va se retrouver à bloquer tout YouTube. Alors ça sonne un petit peu alarmiste, un petit peu comme la science-fiction. Il y a 2 ans, au Royaume-Uni, où un système comme ça a été déployé, c'est l'ensemble de Wikipédia qui, pendant 2 jours, s'est retrouvé inaccessible à cause d'une page au sujet d'un album de Scorpion de 1976 qui s'appelait The Virgin Killer et dont la pochette était une petite fille qui avait l'air d'avoir 7 ou 8 ans, qui était nue les jambes écartées, avec un éclat de verre par-dessus ses parties génitales. Donc une pose suggestive, une image dérangeante, mais dont le caractère n'était pas manifestement pédopornographique, et qui a fait que tout Wikipédia s'est retrouvé inaccessible pendant 2 jours. Et vous imaginez, si c'est Wikipédia, tout le monde s'en aperçoit, donc ça met 2 jours à revenir. Mais si c'est le petit blog du coin ou le site d'un parti politique ou un petit média indépendant, ça peut potentiellement prendre des lustres avant que les gens s'en émeuvent assez pour que l'on fasse le nécessaire, parce qu'évidemment, il n'y a pas de voie de recours. Une fois qu'un site s'est retrouvé dans cette liste noire, bah pour en sortir, bonjour. Donc ce risque de censure collatérale, il est réel, et on a des exemples déjà. Dans la liste finlandaise, c'est un site d'opposition politique au filtrage qui s'est retrouvé dans la liste filtrée. En Australie, c'est le site d'un jardinier, celui d'une agence de voyage, qui s'en retrouvait là-dedans. Nos amis suédois ont pris un échantillon de 167 sites filtrés. Il y en avait 3 qui contenaient des sites, qui contenaient des contenus pédopornographiques. Et juste en envoyant des emails, ils les ont fait retirer en 3 heures. Le reste, soit il n'y avait rien, soit il y avait des contenus tout à fait banals. Et une majorité d'entre eux, c'était du porn gay. Donc on voit aussi les motivations des gens qui veulent mettre en œuvre ce genre de filtrage. Et qui va aller dénoncer des adresses comme étant indécentes, etc. Et sans aucun contrôle citoyen, vu que c'est le ministère de l'Intérieur qui gérera ça tout seul. Et ce risque de surblocage est décrit par le gouvernement lui-même dans l'étude d'impact de la LOPSI comme étant inévitable. Pour vous dire à quel point c'est pas de la science-fiction. Et le deuxième risque, presque encore plus important que le premier si j'ose dire, c'est le risque de dérive où on dit « Ah ben regardez, ça marche très bien le filtrage ». Il n'y a aucun moyen de prouver que ce soit efficace ou non, mais on va vous matraquer que ça marche très bien. Et donc que l'on commence à s'habituer au fait que le filtrage des contenus sur Internet puisse être la solution à un problème donné. Et il se trouve que nos amis les connards du disque et du film sont depuis 5 ans en train de dire « Il faut filtrer les contenus sur Internet pour endiguer ce fléau qui tue. » Quel partage ? Donc on va nous dire « Ah ben on va le mettre en œuvre aussi pour la musique. » Et puis on va le mettre aussi pour la vente de cigarettes sans TVA. Et puis on va le mettre aussi pour... incitation à la haine raciale, tant qu'on y est. Puis pourquoi pas l'insulte au président. Donc le risque est là, qu'on ouvre la porte, on ouvre la boîte de Pandore au filtrage, et ce filtrage, c'est ni plus ni moins que les mêmes mécanismes qui sont utilisés par des régimes tunisiens, iraniens, chinois, et autres grandes démocraties amies, dont le nombre augmente année après année. Vous pouvez voir dans le rapport de Reporters sans frontières chaque année sur les ennemis d'Internet, le nombre de pays qui mettent en œuvre le filtrage d'Internet à des fins politiques qui augmente année après année. Donc effectivement, c'était en fait le troisième pan qui manquait. Merci, désolé, ça n'a pas pris 2 minutes 30. Mais d'un côté, on a ces industries du divertissement qui veulent contrôler le réseau au cœur. D'un autre, on a les industries du télécom qui veulent contrôler le réseau au cœur. Et d'un autre côté, on a les politiques qui la plupart du temps leur obéissent, qui veulent aussi désormais aujourd'hui contrôler le réseau au cœur, quand ils sentent leur régime vaciller, quand ils sentent leur pouvoir politique menacé. Et donc je reviens à ma question, qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, des questions.
J'ai pas de réponse, j'ai une question, je voudrais comprendre quelque chose sur le fonctionnement des gouvernements, des pouvoirs exécutifs, notamment dans l'ACTA ou dans les lois qui sont votées. Donc ils subissent des pressions de la part de lobbies puissants, l'industrie du disque, cinéma, et maintenant des lobbies des télécoms. Je voudrais comprendre quels sont justement ces moyens de pression de ces industries. Alors dans un premier temps, des industries du cinéma et de la musique pour que le législateur et le pouvoir exécutif se plient aux désiderata de ces puissances économiques. Avec qu'est-ce qu'ils disent à ces pouvoirs-là pour les faire plier ?
Alors, j'ai une liste non exhaustive de tout ce que j'ai vu au cours de mes quelques années d'activisme. Un truc super emblématique pour moi, c'est à l'époque de la DADVSI, donc l'ancêtre de la DOPI, à un moment est sortie cette idée d'une licence globale. On disait, on va légaliser le partage et en échange, prélever des sous, les filer aux auteurs et aux artistes. Dans une version préhistorique de ce qu'on défend aujourd'hui, de ce qu'on propose comme s'appelant la contribution créative, et dont on pense, on pourra en discuter, que c'est une façon de sortir par le haut de ce merdier. Et donc Jacques Blache, lobbyiste en chef de la SACEM qui collecte 750 millions d'euros par an, dont une bonne partie provient de la redevance pour copie privée je crois que c'est ouais, 250 ou 300 quelque chose millions d'euros par an qui proviennent de la vente de supports vierges, de clés USB, de DVD vierges, de trucs et de machins qui augmentent comme ça depuis 10 ans, dont 25% de cette redevance copie privée va pour financer le spectacle vivant. Jacques Blache fait le tour des bureaux et aux députés qui sont exprimés en faveur ou qui sont proches de ceux exprimés en faveur, leur dit « Si vous votez tel et tel et tel amendement, on vous coupe les subventions pour les festivals dans votre circonscription. » Donc ça, c'est un des procédés les plus mafieux qu'on ait vu en la matière, tellement on leur a foutu les chocottes qui sont allés jusqu'à sortir des choses comme ça. Et là, on a un certain nombre de témoignages d'assistants parlementaires et de députés qui... Voilà. Donc ça, c'est la version un peu hardcore. Sinon, au jour le jour... Bah, t'es une industrie comme ça, t'as N entités. Il y avait l'IFPI, il y a la MPA, il y a la RIA, il y a la SACEM en France, il y a le SNEP, il y a la SCPP, il y a le bidule. Et donc t'as des milliers de gens qui bossent à plein temps pour écrire des projets de loi, sortir des communiqués de presse, faire des rendez-vous en un contre un avec les élus, et donc faire ça toute la journée à plein temps. En disant, vous vous rendez compte, tous ces jeunes sur Internet qui ne respectent rien, ce qu'il nous faut, ma bonne dame, c'est des valeurs morales, et les valeurs morales, c'est les valeurs de l'auteur qui est rémunéré pour son travail, etc. Donc tu inventes un superbe storytelling autour de ton machin, tu arrives avec un projet de loi doré sur tranche, tu rigoles un peu, t'invites au resto, puis il y a une avant-première de tel machin, vous pouvez venir avec vos enfants. Ça, c'est le travail de tous les jours. Ensuite, il y a... c'est simple, Sarkozy a dit ça ne suffit pas, mais il faut les people pour être élu. Donc il y a ça aussi. T'es un de ces lobbyistes, t'es un patron d'une de ces industries-là, et tu vas voir le politique et tu dis tiens Coco, si tu veux être élu, je te prête Nana Mouskouri, je te prête Julio Iglesias, un petit coup de Johnny par-ci par-là, tac tac. Et une fois qu'il est élu, le bonhomme, tu reviens le voir, tu fais bon, tu sais quoi, Julio, là, il m'a demandé, tu te souviens, là, il t'a aidé, là. Et Julio, il m'a dit, tu sais, les pirates sur Internet, c'est pas bien. Alors, tu vois, tu voudrais pas que Julio, il dise que finalement, il t'aime plus. Donc, ça aussi, c'est un biais. En fait, je pourrais continuer pendant assez longtemps, je crois que ça te donne une idée. J'avais encore un exemple en tête. Assez rigolo. Il y avait au Parlement européen, ça c'est de la technique plutôt classique en fait. Au Parlement européen, il y avait un rapport d'initiative parlementaire qui s'appelait le rapport Gallo. Donc c'est pas une loi, mais c'est un texte d'orientation politique sur lequel on a essayé de faire quelque chose. Mais là, vous allez comprendre comment on s'est fait balayer. La veille du vote, tous les eurodéputés reçoivent une lettre signée par 200 cinéastes disant on veut le rapport Gallo. Internet est en train de nous tuer, et si on nous tue, du film il n'y en aura plus, et si du film il n'y en aura plus, et vous comprenez que l'Europe. Truc super convaincant pour quelqu'un qui n'avait pas lu le texte. C'était signé par plein de grands noms. On a un petit peu creusé, on s'est aperçu que parmi ces plein de grands noms, il y avait un tiers de cinéastes hongrois. Alors je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de cinéastes hongrois, moi peu. Il se trouve qu'un pote en Hongrie a appelé un pote à lui qui connaissait beaucoup de gens dans le milieu du cinéma, qui en a appelé deux de la liste, qui ont dit « Bon non, j'ai jamais rien signé. » Et le lendemain est arrivée une liste de 300 musiciens. Et là, il y avait des noms à la Demis Roussos, à la Julio Iglesias, à la, je sais pas quelle vieille gloire, tête d'affiche, et en même temps d'illustres inconnus. On s'est aperçu que parmi les illustres inconnus, il y avait quelque chose comme 10 à 15% de musiciens classiques. Vous imaginez combien les musiciens de musique classique sont... meurent sous les clics. Voilà. Les gars qui vivent de concerts et tout, voilà, ils meurent littéralement avec la clarinette en travers de la gorge. Parmi eux, il y avait une chanteuse qui était bulgare, je crois, qui avait 7 ans. Et donc qui a lu le rapport Gallo, qui s'est ému de tant de considérations proches de sa vie de tous les jours, et qui, à mon avis, est mûre pour être eurodéputée à l'âge de 10 ans. Ça revient un petit peu à faire voter les morts, tu vois, et des trucs comme ça. Encore un exemple. Non, après, je vais arrêter parce que là, vraiment, je pourrais vraiment y passer la soirée. Il ne faut pas trop que je donne les noms, mais il y a une lettre qui est sortie, assez surprenante, de gens vachement bien en cours dans le milieu du cinéma, qui, pendant la Dopi, disaient « Ben non, nous, en fait, la Dopi, on n'en veut pas, parce que le public, c'est avant tout des citoyens, et parce qu'on a besoin de notre public. » mais que si notre public qui télécharge des films, et ben, qui nous aime quand même, et ben, on vivra quand même un truc vachement raisonnable, vachement intelligent, complètement en rupture avec le discours ambiant. Dans les semaines qui ont suivi, un grand nombre d'entre eux ont reçu un contrôle fiscal. Et les plus connus d'entre eux, le jour même, ont reçu coup de fil après coup de fil, mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues contre ton camp? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux nous tuer? Tu veux ceci? Un petit peu comme Nicolas Sarkozy, dès que quelqu'un de sa majorité vote contre la majorité, l'appelle direct sur son mobile en disant « Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer à être député? Qu'est-ce que tu veux me tuer? C'est ça? Tu veux jouer contre moi? » etc. Donc c'est des pressions politiques, des pressions directes. Et tout ça mis bout à bout, avec des milliers de gens qui font ça à plein temps, c'est une machine très, 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 très puissante. Et la deuxième... Enfin, la... Non, la partie de ta question qui se rattache peut-être à qu'est-ce qu'on fait, c'est nous, quand on lance une campagne sur un dossier comme ça, il y en a un certain nombre sur lesquels on a gagné, déjà. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est assez rassurant. Déjà, la bataille Adopi, on peut dire que politiquement, on l'a complètement gagnée. Mais aussi, sur le Parlement européen et ailleurs, il y a des victoires qu'on a, mais on a balayé des décisions où sur les directives du paquet télécom ou les industries du divertissement, vous les collez une espèce de riposte graduée à la française, mais à l'échelle européenne. Non seulement on a dégagé 95% de ce qu'ils voulaient y foutre dedans, mais en plus on a fait voter par 88% du Parlement européen un amendement qui disait le contraire. Et qui disait toute restriction des droits et libertés fondamentales des utilisateurs d'Internet ne peut être prise qu'après décision préalable de l'autorité judiciaire. Donc c'était Bruxelles qui disait merde à Sarkozy, merde à l'Adopi. C'est une victoire éclatante. Donc on peut gagner face à ces gens-là, mais les fois où on a gagné, c'est parce qu'on expliquait peut-être suffisamment clairement, en le répétant assez, en atteignant suffisamment de gens les uns après les autres, pourquoi ces enjeux étaient importants, pourquoi il était nécessaire de se sortir les doigts des poches. Et de prendre son petit mail, prendre son petit téléphone, d'appeler son eurodéputé et lui dire « Hey, Coco, tu vas voter un truc là. Si tu fais ça, on va parler de toi. Et parlons bien. Je suis dans ta circo, là, ceux qui votent pour toi, où tu comptes, tu sais, les voix une par une, tous les jours en te levant, et où tu vas en avoir besoin d'autres un jour. Hein, et je te regarde droit dans les yeux et je te dis « Si tu votes ce machin-là, tu me plantes un couteau dans le dos. » Et donc expliquer aux citoyens, les uns et les autres, que vous avez ce pouvoir-là entre vos mains, de passer une minute par-ci, cinq minutes par-là, une heure par ici, de temps en temps, à jouer votre rôle de citoyen, à contrôler ce qui se passe dans ces instances-là, et à, quelque part, faire le contrepoids de ces lobbies-là. Vous connaissez le dicton qui dit que si vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Ben là, si vous occupez pas des lobbies des industries du divertissement, les lobbies des industries du divertissement s'occuperont de nous. Et je crois qu'il y avait d'autres questions. Peut-être. Je sais qu'il y en a d'autres. Il l'a. Des questions? Des questions, s'il vous plaît. Des commentaires aussi. Des trolls. Ah, ah.
Moi, il y a quelque chose que je comprends pas très bien. Là. Tu rappelais, je crois, que en fait, les tuyaux par lesquels passe l'information en France, c'est quoi? C'est trois gros fournisseurs, trois, quatre. Donc, en fait, tu rappelais qu'effectivement, la réponse, elle est surtout politique. Mais là, si c'est économique, en fait, je vois pas ce qui les empêcherait effectivement de mettre les filtres en place.
Ah, alors. Il y a effectivement, je crois, trois opérateurs qui détiennent plus de 98% des parts de marché. Mais à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont enregistrés quelque chose comme 800 opérateurs. Donc c'est des gens qui vont fournir l'accès Internet des entreprises avec lesquelles ils travaillent. Des gens qui vont fournir l'accès Internet aux pâtés de maison. Des gens qui, dans un village isolé, vont tendre une grosse antenne sur le clocher et se relier au village à 12 km pour faire un accès Internet et devenir fournisseur d'accès. C'est à qui le net? Je ne sais pas si vous êtes enregistré à l'ARCEP. Ouais. Depuis 2 mois. 2 mois. C'est FDN, le French Data Network, qui est partenaire de à qui le net et historiquement le premier opérateur Internet en France, entièrement associatif et bénévole comme à qui le net. C'est comment s'appelle-t-il déjà, Illico, en région Auvergne, qui commence à faire la même chose. Alors donc, effectivement, vous, je ne sais pas combien vous avez de lignes ouvertes. Une. Bon, c'est un bon début. Maintenant, je pense que parmi vous, il y en a qui comprendront l'intérêt de, pour des raisons éthiques, de s'ouvrir des lignes chez des gens comme ça, plutôt que chez des oranges qui n'ont qu'une seule envie, qui est de vous tondre. Et encore, voilà, on n'est pas les plus mal lotis en France. J'avais vu ce chiffre qu'il va falloir que je vérifie parce que ça fait un certain temps que j'utilise de façon approximative, mais c'était de l'ordre de 8 ou 9 le nombre d'États membres européens qui n'ont qu'un seul opérateur Internet. Et je crois que ça passait autour de 12-13 à ceux qui en ont deux. Donc on voit avec trois opérateurs de mobile ce qu'on a comme concurrence en France quand les tarifs sont rigoureusement les mêmes, les conditions de restriction rigoureusement les mêmes, ou sur votre Internet mobile, là. Enfin, on vous dit que c'est de l'Internet et que c'est résolument mobile, mais on vous dit que c'est de l'Internet et où en tout petit, il y a écrit « Attention, pas de logiciel de voix sur IP comme Skype, pas de peer-to-peer, pas de streaming vidéo, pas de ceci, pas de cela. » Techniquement, c'est plus de l'Internet. Et donc, quand les trois opérateurs sont d'accord, effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, mais dans les perspectives qui s'offrent à nous, il y en a une où si le législateur, je cherche à dire ça de façon polie, agissait avec la dignité et le courage politique nécessaire par rapport à l'importance de ces enjeux pour le futur de nos sociétés. Alors, le législateur définirait des règles qui diraient, au même titre que dans la vraie vie, la restriction des libertés fondamentales se fait que par une décision de l'autorité judiciaire. Il n'y a pas quelqu'un dans un supermarché qui va vous dire bah tiens, non, vous n'avez plus le respect de la vie privée, donnez-moi votre téléphone, je regarde ce qu'il y a dedans. Ou qui va vous dire non, vous n'avez plus liberté d'expression, vous mettre un scotch sur la figure parce que vous parlez trop fort. Oh. Ils n'ont pas le droit de vous fouiller, de vous demander de vos papiers d'identité. Je crois qu'ils peuvent vous. Alors maintenant, de toute façon, avec la LOPSI, ça va changer, parce que, de toute façon, on va vers des polices privées, mais je crois que le statut des gardiens, des opérateurs de sécurité, est un truc assez particulier. Okay. L'exemple est peut-être pas le bon. Retenir le temps, ouais, mais alors je sais même pas, en fait, comment il peut vous retenir. Je crois que ça relève principalement de l'intimidation, mais si vous essayiez de partir du truc, je sais pas de quelle façon il pourrait légalement vous retenir. Mais bon, si vous tapez dessus et que les flics arrivaient, ils ne l'embarqueraient pas pour autant. Donc, bon. L'exemple est peut-être mal choisi, en effet, mais techniquement, ça a été rappelé dans la décision du Conseil constitutionnel de 1980 au sujet d'Adopi, une restriction de liberté fondamentale, c'est l'autorité judiciaire. Donc un législateur digne de ce nom, ou juste digne, pourrait dire, dans l'environnement numérique, vu qu'Internet est essentiel à la liberté d'expression, on ne restreint l'accès à Internet que suite à une décision de l'autorité judiciaire. Point barre. Et quand qui que ce soit veut appliquer une restriction, eh ben, s'il passe pas par l'autorité judiciaire, alors il peut être pénalisé. Et on va lui tomber dessus des amendes, des machins, même des sanctions pénales ou je sais pas. Donc ça, ce serait une solution. Et c'est quelque chose que l'on peut demander. Eh ben tiens, à quel point c'est d'actualité ? Jeudi matin, à 9h30, à l'Assemblée nationale, sera examinée une proposition de loi déposée par le député Christian Paul et 60 députés du groupe socialiste, dont le président Jean-Marc Ayrault, qui est une proposition de loi pour garantir la neutralité du net. Alors c'est un petit peu un tour de... C'est évidemment une motivation un petit peu partisane derrière tout ça. Comme c'est une proposition de loi et, qui plus est, issue de l'opposition, elle a virtuellement aucune chance d'être passée. Mais, il va quand même y avoir un débat sur la question. Je vous invite à appeler vos députés pour leur demander au moins de venir en séance et de voter pour ce machin-là. Parce que si elle se fait rejeter d'une courte tête, au moins ça montrera que le sujet est chaud et important. S'il y a beaucoup de gens en séance, s'il y a un débat qui se fait, j'ai travaillé une bonne partie de ma journée. Tu prends un objet qui s'appelle un téléphone, tu composes un certain nombre de chiffres. Que tu trouves, blague à part, sur tapez mémoire politique sur Internet et vous trouverez un outil qu'on a développé et qui met en fiche tous les députés et qui met des notes par rapport à leur vote sur nos sujets, qui permettent très facilement de négocier entre les partis, les commissions, etc. Donc de toute façon, c'est des données publiques, les numéros de téléphone des bureaux des députés, et il suffit littéralement de prendre son téléphone, d'appeler, de dire bonjour, et vous tombez sur un assistant qui est en général quelqu'un de nos générations, j'allais dire, parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait de la même, je sais pas, je commence à vieillir, mais qui est quelqu'un qui en moyenne a 24-25 ans, qui sort de Sciences Po, qui est en général l'esprit vif, qui utilise Internet, peut-être pas aussi bien que vous et nous, parce que c'est en général plutôt un littéraire, mais qui est toute la journée collé sur Facebook et machin, machin. Non, allez, je plaisante. Je plaisante sur les littéraires. Il faut bien chambrer de temps en temps. Non, des gens brillants. J'ai commencé par dire que c'était des gens brillants. Donc, en général, vous tombez sur des gens brillants qui sont... Attendez, on va pas déclencher une rixe. Il y a des cons partout, et l'inverse est vrai aussi. Bon, troll detected. Non, blague à part, sont des gens brillants qui sont en général accessibles, et vous dites voilà, j'habite à tel endroit, immédiatement il va faire le lien entre tel endroit et la circonscription électorale, et donc vous n'êtes pas un individu, un citoyen, vous êtes un électeur de sa circonscription. Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et vous dites voilà, il y a tel sujet, c'est très important pour moi, je voudrais savoir ce qu'en pense monsieur le député. Ah oui, non, enfin on sait pas trop, oui, donnez-moi mon numéro, on va vous rappeler. Non, mais j'aimerais vraiment savoir, est-ce qu'il va venir en séance? Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il s'exprime là-dessus? Oui, non, mais attendez, là on peut pas, pas dispo, machin, on va vous rappeler. D'accord, mon numéro c'est machin. Une heure après, ils ont pas rappelé, vous rappelez. Allô, bonjour, vous m'avez pas rappelé? Je voulais vraiment savoir, qu'est-ce qu'il pense, monsieur machin? Ah oui, là, non. Et imaginez que 100 personnes fassent ça dans la même journée, quand le monsieur machin va revenir de son déjeuner... avec un lobbyiste de Vivendi Universal, il va demander, bon, tout se passe bien. Il va voir son assistant comme ça, avec le téléphone qui n'arrête pas de sonner, qui lui dit, on a reçu 100 coups de fil qui nous parlent de la neutralité du net, la neutralité du quoi? Je sais pas, il paraît qu'il y a une proposition de loi demain. Ah bon, proposition de loi. Et c'est comme ça que petit à petit, on va un petit peu rentrer dans son cerveau et faire d'un sujet un sujet chaud, un sujet intéressant, un sujet politique. Et donc, vous pouvez, voilà, dès demain, si vous avez 5 minutes à tirer, appelez votre député et dites, ouais... pourriez aller voter pour la proposition de loi. C'est qui votre député ici? Si vous avez son numéro de mobile, c'est encore mieux aussi. Et donc, alors vous faites pas d'illusion, envoyer un mail, ça sert quasiment à rien. Ils en reçoivent des centaines par jour. Mais le mail, c'est un super pied dans la porte. Parce que vous envoyez un mail avec une argumentaire construite et tout, et vous appelez, oui, bonjour, je vous envoyez un mail, vous l'avez lu. Je vais vous raconter ce qu'il y a dedans. Et donc c'est voilà. Michel Delaunay. D'accord. Je vous invite à lui passer un petit coup de fil. Donc la première partie de ma réponse, c'était ce qu'on pourrait faire si on avait un système politique pleinement fonctionnel, c'est faire voter ce genre de texte et donc garantir que nos libertés individuelles soient protégées sur Internet. Et une autre solution, peut-être celle-là à plus long terme, c'est nous les barbus, les sans grades, les geeks, reconstruire Internet. Ça va être extrêmement difficile. Il va falloir obtenir au niveau réglementaire qu'on ait le droit d'utiliser une petite portion des ondes pour y envoyer nos données. Et là, des perspectives se font jour de réseaux dits de type mesh, où comme avec le peer-to-peer, par rapport à une architecture centralisée, il n'y a pas un nœud au milieu et tout le monde qui correspond. Chacun correspond avec tout le monde et chacun fait transiter les données de tout le monde. Ça pose des problèmes techniques aujourd'hui qui ne sont pas résolus. Mais on est en passe d'y arriver, on est en passe de miniaturiser les puces de telle façon à ce que ce genre de choses soit faisable, et on peut imaginer qu'à échéance 3, 5, peut-être 10 ans, on ait chacun dans un petit coin de notre appartement un petit appareil qui en permanence fera transiter les données de tous les voisins, de tout le monde autour, et qu'à l'échelle d'une ville, d'une agglomération, et puis d'agglomération en agglomération avec des brins plus longs, avec des antennes un petit peu directionnelles, on recrée comme ça sur les ondes un réseau parallèle qui deviendra de facto l'Internet, après qu'on a perdu l'Internet d'avant. Mais l'idée serait peut-être d'essayer de ne pas perdre l'Internet d'avant, qui est l'Internet d'aujourd'hui, avant de le reconstruire, parce que ce serait repasser littéralement par un Moyen-Âge, ou d'une époque où chacun accède à un Internet, même s'il ne se rend pas compte de ce qu'est le vrai Internet, le faux Internet, il ne se rend pas compte que Facebook, c'est un Minitel qui aspire sa vie et ses données, et sur Internet, le produit est gratuit, quand sur Internet, le service est gratuit, en fait, le produit, c'est vous. Même si les gens ne s'en rendent pas compte, au moins, ils accèdent à un petit bout de cet Internet-là. on va repasser, peut-être pendant des années, un environnement où les geeks velus seront les seuls capables d'avoir la compétence technique pour arriver à communiquer avec quelqu'un de l'autre côté de quelque chose. Et ça, c'est souhaitable pour personne. D'autres questions ? Oui. Attends, il n'y a pas encore...
C'était vraiment dans la lignée de ce que tu as dit. Donc tu as dit appeler son député pour faire pression, c'est le moyen, pour faire pression pour cette loi. Il me semble aussi donc que les accords ACTA doivent passer au Parlement européen. Vers quelle date il passe au Parlement européen? Et donc là, cette fois-ci, il faudrait plutôt appeler son eurodéputé.
Ouais. Alors, on ne sait pas encore. On sait que le traité, enfin l'accord, pardon, l'accord sera signé quelque part dans le courant du mois de mai, au plus tôt, et qu'à partir du moment où il sera signé par les différents négociateurs, il va falloir qu'il passe par le Conseil de l'Union et ensuite atterrir sur le bureau des parlementaires européens. Donc entre mai et après. On n'en sait pas plus pour le moment, mais si vous surveillez avec attention www.laquadrature.net ou le flux Twitter @laquadrature, vous vous inscrivez sur notre liste de discussion, vous venez sur notre canal IRC, vous abonnez à notre flux RSS, etc., etc., si vous vous tenez informé de ces dossiers-là, vous serez prévenu le plus largement en amont possible, dès qu'on aura le moindre bruit nous venant du Parlement européen. On publiera évidemment cette information-là. Et là, effectivement, il s'agira d'appeler son eurodéputé pour leur dire, si vous votez ça, non seulement vous allez mettre en danger Internet et tout ce que je fais avec, et tout ce qu'on fait avec, et tout ce qu'on est en train de bâtir avec, mais en plus, vous allez carrément renoncer à votre pouvoir politique d'élu en laissant des gens non élus négocier en secret des choses qui ont rapport à des sanctions pénales, des choses qui ont un impact sur la liberté d'expression, sur le droit à la vie privée et sur le droit à un procès équitable. Donc il y aura un message politique très fort à envoyer à ces gens-là. Comptez sur nous là aussi pour le packager, pour l'atomiser, pour en faire des petites miettes faciles à mastiquer pour que un plus grand nombre puisse s'en saisir et participer. Et là, si on arrive de la même façon qu'on l'a déjà fait dans le passé, à être des milliers la veille du vote, à passer des coups de fil et à les faire trembler la main comme ça sur le téléphone au moment de répondre, là, je vous garantis qu'on va le gagner, ce vote. J'ai vu que le micro avait... Oui, oui, ici.
Alors, je voulais juste revenir un peu sur la question des fournisseurs d'accès en France. Une précision déjà, Aquilonet a une ligne depuis dimanche. Donc ça prend du temps à se mettre en place.
Bravo.
Merci. par rapport à la question de, on a des fournisseurs, on en a beaucoup, pas beaucoup en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux parties dans la fourniture d'accès Internet. Il y a le matériel qui est proche de chez vous, donc on appelle ça un DSLAM, bon, peu importe. C'est coûteux à mettre en place. Et là, effectivement, il y a trois opérateurs en France qui en possèdent. Il y en a un quatrième qui est OVH qui commence à se mettre en place, qui va essayer de concurrencer peut-être Orange, SFR et Free, on verra. Et ensuite, il y a ce qui est, bah, vous connectez vraiment à Internet, c'est-à-dire de l'autre côté du DSLAM. Et là, il y a beaucoup plus de monde.
Les tuyaux.
Voilà, les vrais tuyaux, ce qu'on appelle vraiment les opérateurs finalement. Donc, par exemple, il y a FDN qui, pour fournir des lignes ADSL, ne va pas directement voir 9. C'était le cas il y a encore pas très longtemps, mais 9 a dit au bout d'un moment, dégage, t'es trop petit. Heureusement, il y a d'autres opérateurs. Il y a Nerim qui est relativement connu. Pour son accès ADSL, utilise aussi 9, mais pour aller vers Internet, utilise d'autres moyens, donc FDN aussi. Il y a tout un tas d'opérateurs, donc c'est les 800 en fait de la liste de l'ARCEP qui ne possèdent pas forcément les lignes vers chez vous, qui fait qu'effectivement si un jour quelqu'un dit au gouvernement faites fermer l'accès en France, s'ils disent aux trois opérateurs de lignes ADSL coupez les DSLAM, ça va effectivement vous couper l'accès internet aux gens qui ont la DSL. Ça va pas couper l'internet de tout le reste. C'est une des raisons pour laquelle le déploiement de la fibre,
c'est assez important de le faire de manière très avisée et de surtout pas laisser quelques entreprises déployer tout. C'est extrêmement important de ne pas laisser ça aux mains de quelques entreprises, mais de privilégier, mais par exemple, des acteurs locaux. L'avantage, c'est que ça va créer des emplois dans le coin, pour éviter justement le blackout de l'Égypte, où en appelant simplement quelques opérateurs, on a coupé complètement les ponts entre l'Égypte et le reste du monde. Un dernier commentaire, c'est par rapport à nos voisins européens qui essayent de mettre en place des fournisseurs d'accès associatifs comme FDN. Par exemple, en Belgique, il y a essentiellement un opérateur et il possède tout le matériel, tout ce qui se passe. Et du coup, c'est très difficile d'avoir des alternatives. Et si quelqu'un appuie sur le bouton off de ce côté-là, c'est très mal. L'Internet là-bas est en très mauvaise posture.
Merci. Merci pour cette note d'optimisme. On n'est pas les plus mal lotis, en somme.
Oui, franchement, ça va. En France, il y a le problème de la DSL où il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Il y en a quand même déjà 3, ce qui fait déjà un peu levier. Free est quand même pas mal, logiciel libre, tout ça. Donc, bon, SFR, c'est un agglomérat de choses, c'est assez indéfinissable. Il y a OVH, qui est assez gentil, disons, ça reste une entreprise, donc c'est pas forcément évident de se battre contre les actionnaires.
Ils sont introduits en bourse.
Oui.
Ils le sont d'ailleurs.
Je sais pas. Mais bon, ça reste une entreprise, mais on a des contacts avec eux. C'est pas impossible, par exemple, que des fournisseurs d'accès, plutôt que rester chez Neuf, parce qu'on a un contact via Nérim, disent, on va aller chez OVH, comme ça, on évite que le gouvernement nous coupe, simplement en coupant Neuf.
Questions, des commentaires? Ah, là-bas, tout au bout. Désolé, tu vas devoir courir. Fond là-bas.
Bonsoir, alors c'est plus une... Pour revenir en partie sur le film et sur ce qui a été dit depuis, en réalité, je pense, et l'intervenant qui précédait l'a bien montré, Internet n'est pas du tout aussi décentralisé qu'il était prétendu au début de Steal This Film 2. Donc d'une part d'un point de vue des tuyaux et même d'un point de vue de l'utilisateur. Quand on regarde ce qui s'est passé, je crois que c'était en janvier 2009 ou 2010, quand Google pendant 2 heures a eu ses serveurs qui ont affiché tous les sites comme étant infectés par un virus et les ont rendus inaccessibles, il y a eu une chute de plus de 20% du trafic net donc sur Internet, ce qui montrait l'incapacité des gens à passer... outre ce point d'accès, c'est-à-dire ne serait-ce que l'incapacité de taper l'URL directement du site qu'il voulait visiter. Et donc, à partir de là, contrairement à ce qui était dit, on a des gatekeepers. On a des gens qui sont capables de garder les portes de l'Internet. Et si on regarde la décennie des années 2000, enfin, telle que moi je l'ai vécue, d'un point de vue de l'Internet, entre 2000 et 2006, on a une certaine décentralisation au niveau des protocoles d'échange de fichiers. C'est-à-dire que je me souviens très bien, quand j'étais jeune, pour avoir un logiciel, pour avoir un film, on allait quoi ? On allait sur un serveur FTP, souvent basé en Russie, donc souvent en réalité administré par la mafia russe, récupérer les films. Après, sont arrivés des logiciels d'échange via des serveurs un peu plus décentralisés. Et puis finalement, il y a eu Kademlia, par exemple, avec là un système entièrement pair à pair. Et puis après, il y a eu une sorte de recentralisation, d'une part avec BitTorrent, qui impliquait de passer par un tracker, et ensuite avec le streaming. Et là, finalement, on a un peu, déjà, je dirais, perdu la bataille, dans le sens où la recentralisation, elle est déjà à l'œuvre. Et quand on parlait de gens qui partageaient, c'est vrai qu'il y avait des gens qui partageaient, mais dans la plupart des cas, les gens ne partageaient pas, ils téléchargeaient, c'était leur logiciel qui partageait, sans même forcément qu'ils le sachent. Et il y avait une grande partie des gens qui essayaient de devenir finalement des leechers, donc de réduire l'upload, le partage, à zéro. Et donc finalement, je pense qu'il y a une grande partie de la solution qui vient plus de l'éducation et de la sensibilisation plutôt que de solutions vraiment purement techniques.
Alors, j'abonde dans ton sens. Et il y a quelque chose effectivement qui est un petit peu passé à l'as dans la description qu'il y avait là, c'est que Internet en tant que réseau d'ordinateurs est décentralisé. Chacun peut accéder, chacun peut produire. Le web, HTTP, les pages web, est par nature quelque chose de centralisé. Parce que tu as un serveur web dont tu tapes l'adresse dans la barre de ton navigateur et des milliers, des millions de personnes qui y accèdent. Centralisé, ça veut dire qu'il y a un acteur au milieu, imagine une étoile, il y a un gros centre et plein de petites branches tout autour. Logiquement, il peut y en avoir distribué dans plusieurs endroits du monde, énormément de sites n'ont pas l'infrastructure de Google et sont peut-être dans deux data centers côte à côte dans la Silicon Valley. Les trois quarts des sites commerciaux sont dans des data centers de la Silicon Valley. Google est particulier en ce sens qu'il a des serveurs aux quatre coins de la planète. Je n'irai pas jusque-là. Des gros sites sont encore localisés géographiquement dans un seul endroit, un seul data center. Et même si c'est plein d'ordinateurs, d'un point de vue logique, il s'agit d'un gros... un cluster, une grappe. Et donc, ça représente un centre dans l'architecture réseau sur laquelle tout le monde se connecte de l'extérieur et tout le monde n'est qu'un client et donc va demander des données au centre pour les... Tu peux ? Pardon ? À qui le net, ouais. Mais là, tu me parles de la répartition de la charge, donc de ton architecture, pour fournir un point central d'accès pour tout le monde. Ce sera toujours qu'une seule URL. Donc on se fiche de l'architecture derrière. Ben non, ce dont je te parle, c'est que tout le monde va accéder à un point unique, qui est www.google.com ou www.facebook.com, et que derrière, il peut y avoir un million de serveurs sur des petits machins ici ou là, tous vont réagir ensemble pour donner le même Facebook et le même Google à tout le monde qui y accédera. Donc c'est pas tant l'architecture des serveurs, alors on va dire que c'est le service qui est centralisé, pas l'architecture technique des serveurs. C'est le service.
Alors, je voudrais juste donner une réponse. Enfin, je connais assez bien le problème. Moi, dans mon cours de réseau, je dis que le web, c'est décentralisé, enfin, c'est même acentré, au sens où il n'y a pas de gros centre dans le monde qui connaît tous les sites web. Donc chacun, dans son coin, peut faire son site web, et puis il est complètement indépendant de tout le reste dès le moment qu'on connaît l'adresse. Après, bien sûr, si la police vient enlever la machine, eh ben, le site web n'existe plus. Donc, de ce point de vue-là, pour ce site que quelqu'un a créé, il est effectivement centralisé. C'est ce que Jérémy entend. Après, des entreprises qui ont les moyens peuvent mettre des serveurs un peu partout. Donc, en mettant des serveurs... Oui. Oui, on peut faire des miroirs.
Bien sûr. Oui. C'est le principe du mass mirroring de Wikileaks et compagnie. Le fait est que, quel que soit le miroir de Wikileaks où tu accèdes, tu as toujours des millions de personnes qui vont consulter les mêmes données qui, où qu'elles soient localisées, le service est le même. Le service lui-même est centralisé. On va dire que c'est l'abstraction que représente le service, qui en tout cas, du point de vue de l'utilisateur, est ce que tu obtiens, qui lui est centralisé, là où l'architecture technique, effectivement...
Parce qu'il y a un point, tout à l'heure, il y a un discours vachement intelligent.
Oh non, va pas jusque-là tout de même. Ah bon, ça va.
Non, vraiment, j'ai eu un discours qui m'étonne beaucoup de la quadrature.
À ce point-là.
Sur les réseaux mesh, la décentralisation des terres à pair, et je pensais que tu allais rebondir sur
la Freedom Box. Non, parce que je pense justement que le web en tant que protocole conduit à la centralisation des services. Et je ne sais pas si tu es familier du projet Freedom Box. initié entre autres par Eben Moglen, qu'on a vu dans Still This Film 2, qui lui propose, est en train de bosser là-dessus avec les gens du projet Debian, de créer les services décentralisés qui rempliraient les fonctions et des Facebook et des... d'autres exemples en tête de services à la mode, voilà. Mais je pense qu'on va être fondamentalement obligé de passer par d'autres protocoles. Mais là, on est déjà en train d'entrer dans...
C'est beaucoup de technique, oui.
Mais voilà, dans des... Mais
par contre, sans rentrer dans la technique, ta stratégie vis-à-vis des politiques, c'est un truc que tu t'es approché pendant les débats en 2009, je crois.
Peut-être. Ça a duré longtemps.
C'est d'avoir voulu convaincre les politiques plutôt que de proposer une alternative. Ça, c'est très bien expliqué avec l'Empêche, etc. Il y a vraiment toute une construction sociale à produire. Et moi, je pense qu'il ne faut pas les...
Alors, il y a... Enfin...
Il faut s'organiser en parallèle sur un réseau citoyen. Une fois qu'on a la masse politique...
Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et que les informer, et d'une, il y en a que tu retournes, et une fois que tu les retournes durablement. Et donc, dans l'idée... Ouais, j'ai des exemples. Regarde ce que dit aujourd'hui Catherine Trautmann sur la neutralité du net. Elle est une des eurodéputées qui s'exprime le plus et le plus courageusement sur ces sujets-là, alors qu'elle était notre ennemie jurée pendant le paquet télécom, et qu'elle nous a haïs. Elle a véritablement compris l'importance de ces enjeux, je pense, au cours de ces débats. Donc, et d'une, je reste persuadé qu'il reste donc, peut-être quelque part un soupçon d'humanité chez certains de ces gens-là, et auquel on peut faire appel. Ensuite, bon, l'un n'empêche pas l'autre, mais surtout, je pense que ça participe de faire la démonstration, et donc de faire comprendre au plus grand nombre, parce que si nous, les geeks barbus, hein, je me permets, même si... Je pense qu'on est en désaccord sur de nombreux points. Peut-être qu'on se retrouve sur certains aspects. Bon. Ah d'accord. Alors peut-être que nous les geeks barbus dont tu ne fais pas partie, on aura beau comprendre les architectures réseau, les protocoles et maîtriser les outils, si c'est pour retourner à l'internet de 1995 ou quand j'en parlais dans la cour de récré, on me tapait dessus parce que j'avais l'air d'un extraterrestre. J'exagère à peine. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est le réseau d'Internet d'aujourd'hui, le réseau inclusif dans lequel chacun peut littéralement s'exprimer, dans lequel les Égyptiens ont certes utilisé Facebook, et Facebook c'est mal, mais vont réussir à faire des manifs.
C'est pas trop paradoxe.
Alors. Merci. Ah, je le prends comme ça. Mais en même temps, on a tenté de le couper, on ne l'a pas vraiment coupé. Parce que l'opérateur qui restait connecté a servi de tunnel à tout le monde, et parce que les geeks de FDN ont ouvert leur modem, et parce qu'il y a eu 100 façons différentes de contourner. Non, bien sûr. Et c'est plus Tor, et le réseau qui restait ouvert à cause du stock exchange, et à cause de la dépendance de l'infrastructure de l'État au travers du stock exchange par un opérateur, etc. Et donc ça, on pourrait en reparler. Mais pour revenir sur l'objet de ta question... Moi, je pense que exposer la façon dont le système politique aujourd'hui est malade et perverti, et exposer la façon dont la représentation nationale obéit à ses intérêts industriels, et exposer combien ces intérêts industriels sont différents de la perception que l'on peut avoir des choses quand on réfléchit un instant, même si c'est pour en faire des arguments triviaux, exposer les faiblesses du système... concours de faire comprendre aux gens les uns après les autres ce qui se passe, et quand tu comprends ce qui se passe tu peux réagir, et alors ça peut être réagir en appelant ton député si tu penses que c'est inutile, mais ça peut être aussi réagir en se disant tiens je vais ouvrir une ligne chez Aquilonet et puis je vais apprendre la programmation en C et puis je vais participer de faire des protocoles réseau qui ceci et cela, à partir du moment où il faut commencer par s'apercevoir, diagnostiquer le problème, c'est déjà la moitié d'être arrivé à la solution.
Il y a
Ah, Biard. Non, pas 93. Elle est. Non, elle est Paris, deuxième circuit de Paris. Ah, c'est marrant, c'est peut-être moi qui l'aurais. Alors, non, c'est un mail que tu leur as envoyé. Et tu me diras ton nom après. Non, mais c'est rigolo parce que. Ok, on a dû sans doute se parler, etc. Ouais. Alors, je comprends ton point de vue, je l'accepte. Et moi, il se trouve que j'ai arrêté de programmer il y a un certain temps, que je suis pas assez patient. Et voilà, donc moi, je vais pas me mettre à développer des nouveaux protocoles, là, aujourd'hui, maintenant. Dans mon cas, c'est exclu. Mais, là où je pense que c'est... la question fondamentale ici, c'est est-ce que, oui ou non, on peut encore un peu croire au système politique, à la représentation et à la démocratie représentative. Moi, je me dis que peut-être que oui, avec une espèce de soupçon d'optimisme, et toi, tu sembles dire que, en fait, non. Et je pense que les deux, t'auras peut-être raison sur le long terme. Moi, je pense qu'il faut continuer d'essayer. Il y a une question ici, on va y venir tout de suite. Juste, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, et aussi ce qu'on veut démontrer avec la quadrature du net, si nos arguments ne plaisent pas, c'est qu'il te suffit de faire pareil et de faire les tiens. Et quand je vais arrêter la quadrature du net... Non, mais ça m'intéresse de te dire ça. Parce que quand je vais arrêter la quadrature du net, je vais écrire le how-to. Pour les non-geeks d'entre vous, le how-to, c'est une documentation technique qui vous dit comment faire pas à pas quelque chose. Et donc, je vais expliquer que, voilà, tu prends tel morceau d'outil, tu prends tel geek qui sait faire tourner des serveurs, tu poses la question à un juriste là-bas, tu demandes à quelqu'un qui connaît les institutions européennes, tu mets tout ça dans une même salle, vous bossez, vous trouvez un nom un petit peu sympa, vous trouvez moyen de vous financer, vous faites ceci, vous faites cela, et au bout d'un moment, vous vous retrouvez à vous faire poser les questions par France 2 quand il y a un bidule qui vient sur ces sujets-là, et vous arrivez juste à hacker le système pour faire entendre votre message, parce que vous avez entre les mains un machin qui s'appelle Internet. Et donc, ce qui est beau avec ce machin qui s'appelle Internet que l'on partage, que l'on a entre les mains, toi comme moi, c'est que s'il me permet, moi, d'aller faire le mariole sur les plateaux télé pour expliquer la neutralité de façon triviale à nos mamans et nos papas, c'est aussi l'occasion pour toi de t'y mettre et de faire ce mesh network, et quelque part, juste fais-le. Le projet Freedom Box d'Eben Moglen, la Freedom Box Foundation, a été inauguré, a été formé le vendredi dernier d'avant le FOSDEM. Donc ils vont collecter des fonds pour financer des gens à plein temps, pour bosser sur ces protocoles et sur ces outils, main dans la main avec les gens de Debian. Il y aura besoin de développeurs talentueux, de concepteurs talentueux, de gens critiques, capables de leur dire quand ils pensent que vous êtes tous des cons et vous faites une erreur, et on a l'impression que tu es très bon à ce petit jeu-là. Donc, juste fais-le, sérieusement. Et je dis ça sans, tu vois, il y a de la place pour toutes les tentatives. Et c'est une espèce de darwinisme de l'intelligence humaine où chacun peut essayer. Ah, j'ai ma solution. Tu peux la faire. Tu peux la mettre en œuvre.
C'est vachement plus facile de le faire quand t'as côté, y a pas quelqu'un qui dit non, mais c'est ramené dans 6 mois parce qu'on est en train de combattre les
députés. Bah écoute.
Si on dit stop, on arrête de combattre les députés, on part sur une solution alternative.
Tu dis alternative, là c'est un faux dilemme que tu nous mets, parce que tu dis ça comme si l'un était exclusif de l'autre, comme si les gens qui vont appeler leurs députés, s'ils passaient pas 5 minutes à le faire, allaient passer 5 minutes à coder. C'est un petit peu... Mais c'est un petit peu aussi fallacieux que de dire si tu télécharges un morceau, c'est que tu l'achètes pas, parce que tu l'aurais pas téléchargé, tu l'aurais acheté. Quand tu présentes une alternative en disant c'est soit l'un soit l'autre... Mais on peut faire les deux. On peut faire les deux. Moi, je te dis un truc, c'est que je suis persuadé que la bataille de l'ACTA au Parlement européen, on peut la gagner. C'est un vote que l'on peut gagner. Et je l'ai déjà dit sur le paquet télécom quand on a gagné, sur le rapport Medina quand on a gagné. Je l'ai déjà dit sur la déclaration écrite 12 où tout le monde nous prenait pour des allumés quand on a tenté de faire ce machin qui était 10 fois plus difficile que ce qu'on imaginait et on y est arrivé. On a déjà remporté des victoires dans ces arènes-là et la bataille de l'ACTA, c'est un symbole colossal d'ampleur internationale. Ou si nous, nos citoyens, avec nos bits, nos couteaux et nos protocoles et nos logiciels libres, on débarque et on leur dit « Pouf, tu vas nous le rejeter ce machin » et que le Parlement nous le rejette, ça va être un truc historique qui, et c'est à notre portée aujourd'hui. Peut-être que je me plante, hein, peut-être qu'on ne va jamais réussir à lever l'armée de téléphones que l'on souhaite lever. Et reparlons-en après le vote. Mais je te dis qu'aujourd'hui, d'expérience, c'est une bataille que l'on peut gagner. Je pense qu'elle mérite d'être gagnée. Ceux qui le croient aussi sont bienvenus pour participer. Les autres peuvent aller faire autre chose. Ah, je préfère limpide que trivial. L'important, c'est de combattre. Ils ont assez de milliards pour continuer d'entretenir leur armée de lobbyistes jusqu'à la après qu'on soit mort. Il y a une question d'abord ici. D'abord, mademoiselle avait une question.
Oui, en fait, je voulais parler aussi de la démarche du Parti Pirate. Qui... Bon, je m'y connais pas trop.
J'ai juste lu
un peu. Et donc, j'ai vu qu'eux, ils avaient participé, en fait, aux élections.
Ouais.
Et qu'ils avaient réussi à obtenir, par exemple, une représentation au Parlement européen à travers les élections à la Suède. C'est un peu différent, par exemple, de la démarche de la Quadrature. Donc,
alors, j'aurais du mal à vous livrer mon analyse du Parti Pirate en public et en restant poli. Non, en réalité, c'est une blague. C'est une blague qui a bizarrement tourné. Les gars étaient crédités de 0,14% d'intention de vote en Suède lorsqu'il y a eu le début du procès de The Pirate Bay. Et à l'ouverture du procès de The Pirate Bay, ils étaient à 1%. Une semaine après, le procès continuant, ils étaient à 2%. Le procès continuant à 3, 4, 5, 6, 7, les élections, ils ont fait 7%. Et un type s'est fait élire et une deuxième, Amelia, attendait. De sombres problèmes administratifs soient résolus pour siéger également. Ils n'ont jamais été structurés comme un parti, ils n'ont jamais eu une idéologie, ils n'ont jamais eu un programme, mais avec un nom rigolo, avec une seule question, on réussit à se propulser là. J'ai bossé directement avec Christian Engström, qui est l'eurodéputé en question, qui s'est fait élire. Et le type a tout d'une espèce de centre mou, complètement à côté de la plaque, où sur la troisième lecture du paquet télécom, le conseil était en train de forcer un compromis complètement absurde, et on lui avait juste avant fixé les red lines de négociation qu'il fallait pas franchir. Et au moment de faire le vote final, tout le monde se tourne vers lui, et j'ai le témoignage direct de deux libéraux, donc pas les plus à gauche du Parlement, qui m'ont dit, au moment du vote, on a regardé le pirate, et le type, il a fait... Donc nous, on ne pouvait pas dire non, parce que tu ne peux pas être plus que le pirate. Et comme il est un peu comme ça, et qui peut-être qu'il comprend pas tout, qu'il cherche à se faire des amis, ou je sais pas, il a paradoxalement abaissé le niveau de position sur ces sujets-là, dans le groupe Les Verts, qu'il a rejoint pour des raisons... administrative. Donc de ce point de vue là, pour moi je pense que ça marche pas. Ensuite en France, il y a des gus qui se sont amusés à faire un truc comme ça, et une fois ils se sont présentés à des élections, et c'était dans une circonscription de près de Versailles, je crois, un truc dans le 92, la deuxième circonscription des Yvelines, merci, d'accord, la deuxième. Dixième. Donc un truc qui était bastion de la droite depuis, je crois, 60 ans ou 40 ans. Enfin, un truc, voilà, super emperlousé. Et là, déjà, fait historique, se retrouve non pas UMP versus PS, mais UMP versus les Verts au second tour. Donc un truc déjà qui secoue un petit peu le paysage politique. Le pirate qui s'est présenté à un score non ridicule de, je crois, 2,14 ou 2,3%. Ah, pardon, merci. Je vois que vous avez bien suivi. 2,08, ce qui représentait 532 voix. Non, 534. Bon, 500 et quelques voix. Donc un truc non négligeable. Et un journaliste l'interroge et lui dit, alors, monsieur le pirate, vous appelez à voter pour qui aux... c'est-à-dire que mes électeurs, ils sont intelligents, donc ils vont choisir. Non, attendez, le journaliste sort de son devoir de réserve. Il dit, attendez. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous n'êtes pas au second tour, donc vous appelez à voter pour quelqu'un. D'un côté, il y a un UMP dont le parti vient de voter la DOPI. Et de l'autre, il y a un Vert qui, depuis 10 ans, défend les idées que vous défendez. Oui, mais lui, il s'est abstenu sur la DOPI. mais... Non, non, mais mes électeurs, ils sont intelligents, donc ils vont choisir eux-mêmes. L'UMP s'est fait élire à 5 voix. Donc le type, par manque de courage politique, parce qu'il savait peut-être même pas comment ça marchait, peut-être que quand on lui a posé la question, vous appelez à voter pour qui, il savait même pas que c'était une obligation morale vis-à-vis des gens qui avaient voté pour lui, qui lui avaient délégué leur confiance en donnant une voix pour lui, de les guider et de dire qui allait au mieux représenter leurs idées, leurs opinions parmi ces deux-là. Peut-être qu'il savait même pas qu'il était juste pouit. Mais il avait sous le pied de quoi déclencher un tsunami politique en France. Ou si un Vert avait été élu contre cette UMP-là, on en aurait parlé 2 ans après à l'UMP de trouille, en y pensant. Et le type, à la seconde où il aurait été assis, oui, Adopi, Internet, machin, il aurait déroulé tout le programme, si on avait un, du Parti Pirate, parce qu'il aurait été élu grâce à ça. Donc c'est les deux exemples que j'ai d'action politique de gens qui se revendiquaient d'un Parti Pirate, et les deux fois, par manque de courage politique, ça a été un petit peu désastreux.
Ils ont fait aussi une pétition avec le moyen de mettre code postal pour savoir c'était qui votre député, ce qu'il avait voté.
On a fait ça il y a un certain temps avec Mémoire politique aussi. Oui. Non, mais il y a des individus très bien chez eux et très motivés, etc. Juste, je suis pas sûr que la forme d'un parti politique soit le meilleur mode d'action. Et en fait, il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qui me gênait derrière ce concept-là. C'est que parti pirate. Un parti, c'est un truc super structuré, pyramidal, dans des règles vachement précises. Alors qu'un pirate, c'est censé être quelqu'un qui fait « ah, ah, ah » avec un perroquet et qui tue des gens ou qui saute de bateau en bateau. Donc il y a juste une contradiction là-dedans. Et je pense qu'à mesure que, quand bien même ça marcherait, parce que le concept marketing de parti pirate est séduisant, quand bien même ça marcherait et le score monterait dans les élections, mécaniquement quand les scores monteraient, le truc se remplirait d'opportunistes qui seraient là que pour le pouvoir et pas pour les idées, qui eux savent comment ça marche dans les partis, et qui un par un tuerait toutes les personnes à tuer pour arriver en haut et prendre le contrôle du machin, rafler la mise et ensuite se vendre au plus offrant. Au passage, ces machins-là sont ultra, ultra manipulables. Et je vous invite, un bon élément pour mesurer de la pertinence ou de l'utilité du parti pirate, d'un parti pirate, sera les élections qu'il y aura à Berlin, je crois, en septembre. Il paraît que pour la première fois, selon des sondages récents, les Verts pourraient prendre la ville de Berlin. Ce qui serait un truc historique qui fait penser à la 10e circonscription des Yvelines. Et moi, j'ai beaucoup d'amis à Berlin qui sont chez les Verts et qui s'occupent de ces questions relatives à Internet depuis 10 ans, qui sont les gens les plus influents d'Allemagne sur ces questions d'Internet et qui sont aussi connectés aux Verts, Markus Beckedahl de Netzpolitik, Malte Spitz et des gens comme ça. Une bonne partie de leurs amis et des bandes autour sont dans le parti pirate. En gros, c'est quasiment les mêmes personnes. Et j'ai déjà dit à un ou deux d'entre eux, si les Verts loupent loupent Berlin de 1,5% et que le parti pirate fait 3%, je vais aller casser des genoux. Enfin, je vais aller dire deux mots à certaines personnes en leur disant ouais, voilà, à quoi ça a servi. Donc le problème, c'est que ces calculs politiques et ces logiques de parti sont aux mains de gens qui sont vraiment pas des plaisantins. Et que entrer dans cette arène-là, quand on est une espèce de petit agneau tout blanc, tout gentil, y a des chances que ça tourne mal. Voilà. Je me rends compte que j'ai dit ça publiquement, que ça a peut-être été enregistré, qu'on va me ressortir ça. Mais j'assume. Voilà.
Encore 5 minutes.
Okay. Oui. C'est pour l'enregistrement, pour les... C'est des traces compromettantes.
D'accord. Bon, je veux dire des choses compromettantes. Non, c'est oui, voilà, j'y connais pas grand-chose, mais je vous écoutais tout à l'heure, vous parliez de la centralité ou de la non-centralité du net, et je me renseigne à droite à gauche, donc je suis allé voir une conférence d'une fille du CNRS, dans laquelle elle disait à un moment donné que les 16 serveurs racines ou sources ou je ne sais quoi d'Internet étaient tous aux États-Unis, du coup... Ah bon, bon, alors bon... Non mais justement la question, je voulais dire ça pour qu'on m'explique, quoi, parce que ça avait l'air antagoniste avec ce que vous disiez tout à l'heure, alors je sais pas. Elle disait que les États-Unis pouvaient couper tout Internet, c'est un mythe.
Non, bon. C'est un mythe, ils pourraient couper... Non, il parlait des DNS. Mais si les États-Unis coupaient les serveurs racines, il faudrait entre 1 et 12 heures pour que l'Internet se remette sur pattes et continue sans eux. D'accord. Parce que par définition, ces serveurs racines envoient leurs données à d'autres serveurs qui les répliquent. Et donc quelqu'un d'autre dans le monde dirait « Bon, allez, maintenant, ça suffit, je suis racine. » Et on part. Donc la gouvernance politique de l'Internet par les États-Unis et l'influence des États-Unis... Pardon ? Ça foutrait un sacré bordel. Ouais, disons entre 1h et 72. Allez, 100. 100. Ah non, certes, ça causera des... Oui, mais c'est pas la fin du monde. Oui, mais ce serait pas la fin du monde non plus. Voilà, donc ça c'est une menace qui est grandement exagérée et qui en tout cas n'est pas à la hauteur, par exemple, du gouvernement américain qui, par deux fois cette année, a saisi directement à l'ICANN, qui est l'autorité qui attribue la capacité même à assigner les noms de domaines, a saisi des domaines en disant « On est le Department of Homeland Security, Copyright Division of Yeah !» Et on prend ce domaine-là et on l'enlève avec une procédure express, ce qui veut dire que le gouvernement américain s'est littéralement arrogé le droit d'intervenir sur des sites internet opérés absolument n'importe où dans le monde, en passant par cet organisme. Et ça, c'est beaucoup plus préoccupant que l'histoire des serveurs racines. C'est quelque chose d'un peu plus nouveau. Et on est vraiment sur le terrain de la gouvernance politique de l'Internet.
Mais elle disait aussi, du coup, je voulais avoir une confirmation ou pas, du coup, que la jurisprudence, tout le problème juridique lié à Internet était lié à la jurisprudence américaine ou à la loi américaine, du coup.
Disons qu'une bonne partie du droit américain influence le droit européen, mais je vois pas exactement ce qu'elle aurait voulu dire par là. Par exemple, si c'est vrai que sur la précédence du droit des marques sur le droit des noms de domaine, Les premiers cas ont été aux États-Unis et puis on en a eu en Europe ensuite. Je ne serais pas aussi définitif que ça, sinon que les mêmes lobbies qui agissent sur le Parlement américain agissent sur le Parlement européen. Donc c'est peut-être plutôt dans ce sens-là que la loi se fait changer de façon homogène.
Je pense que c'était lié aux histoires de l'ICANN, justement, et des autres organismes comme ça, qui sont tous aux États-Unis, a priori.
Non, par exemple, il y a l'AFNIC, qui en France gère le .fr, et la charte de l'AFNIC sur comment enregistrer un .fr, ou comment se faire supprimer un .fr, et je crois assez différente de celle qui régit les .com et les .org. Il faut avoir un nom complet, une adresse complète en .fr... Des choses comme ça qui sont absolument pas vérifiées. On a déjà le point net, ça va. On est content.
J'avais juste une dernière remarque, mais c'est par rapport à autre chose. C'était que le film, j'étais surpris de voir que le film avait lui-même un copyright, en fait. Je me demandais pourquoi.
En fait, pour mettre en œuvre une licence libre de type Creative Commons ou autre,
ouais,
pour dire je, en tant qu'auteur, vous donne la permission à tous de copier, de remixer, de partager, de faire ce que vous voulez, cette capacité à donc décider d'une licence d'utilisation de votre œuvre, ça dépend du copyright. Et juste le fait de dire copyright telle personne telle année, ça veut pas dire copyright telle personne telle année, virgule, all rights reserved.
Mais on peut pas mettre un copyleft, du coup
ça... Non, en fait, le copyleft, c'est une blague. Mais ah bon, l'humour de Richard Stallman est souvent un petit peu... voilà, j'aime beaucoup Richard. C'est une blague entre Eben Moglen et Richard, de dire voilà, il y a copyright, donc on va faire copyleft, mais c'est pas antagoniste, c'est pas soit on fait du copyright, soit on fait du copyleft. C'est vu que le copyright m'appartient, vu que je suis auteur. En France, on parle de droit d'auteur. Je suis l'auteur, donc je bénéficie du droit d'auteur de mon œuvre. Et en tant qu'auteur bénéficiant du droit d'auteur, je vais décider que ma façon de mettre en œuvre le droit d'auteur, ça va être le copyleft. Et ça va être, au lieu de dire « all rights reserved », vous n'avez le droit de rien, parce que je garde tous les droits pour moi, ça va être « all rights for free »,« all rights to share », où tout le monde va pouvoir faire tout ce que moi je peux faire avec mon œuvre aussi. Mais c'est un mode d'application du droit d'auteur, c'est un mode d'application du copyright, et c'est vrai que pour ça, l'appellation « copyleft » est... Et pas que pour ça, parce qu'on se fait traiter de gauchiste, vu qu'on est « copyleft » plutôt que « copyright », donc c'est vraiment... Comme quoi les blagues tournent mal, et je parle pas là que du parti pirate. Et est-ce qu'il nous reste une minute? Une toute petite.
Ouais, on en a pas parlé, mais il y a aussi une fois qu'on aura épuisé peut-être toutes les ressources, d'autres moyens d'action par l'activisme, notamment avec les DDoS ou le sabotage, je sais pas, des trucs pas très légaux, mais qui permettent de manifester son mécontentement sur tout ce qui se passe. Ça peut paraître pas très citoyen, mais au final, faire tomber un site web, ça reste casser une vitrine, montrer qu'on n'est pas content. Et si on s'organise bien, on peut montrer qu'on est nombreux et qu'on n'est pas content. Quoi.
Je ne ferai en aucun cas la promotion d'actions... violente, je vais pas juste dire contraire à la loi, parce que je pense que la désobéissance civile fait partie de nos parce que c'est un droit, je sais pas, bref, je crois à la désobéissance civile. Maintenant, des actions violentes comme ça, je pense qu'elles ne peuvent que se retourner contre ceux qui les mènent. On a vu effectivement, pour ceux qui ont suivi l'histoire des Anonymous, qui ont tenté de protéger Wikileaks, mais de s'opposer à la réaction à Wikileaks, la moyenne d'âge doit être autour de 16 ans, j'imagine, on ne peut pas avoir de statistiques là-dessus, et donc ils ont fait ces attaques en déni de service, où en fait tous en même temps lançaient des requêtes, genre je veux savoir ce qu'il y a sur ton site web, dis-moi ce qu'il y a sur ton site web. Et quand des milliers de personnes font ça en même temps, bah, le site web il pète un plomb, il essaye d'en donner un petit peu à tout le monde et au bout du compte il donne plus rien à personne et le site se retrouve inaccessible. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que tu sais sans doute, c'est que ces attaques en déni de service ne cassent rien. Elle ne casse pas le matériel, elle ne va pas casser les ordinateurs, elle ne va pas faire fumer, ou exploser ou fondre les ordinateurs sur lesquels sont stockées les données. Elle ne va pas détruire les données non plus. C'est à peu près l'équivalent de 100 personnes qui iraient devant un McDonald's et qui feraient non, 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 non. Les gens qui voudraient acheter leur chicken McMachin ne pourraient pas entrer parce qu'il y a 100 personnes devant.
C'est ça, est-ce que ce n'est pas juste un nouveau moyen de protester ?
Ça, le déni de service, ça a été appelé attaque en déni de service. C'est vrai que techniquement, il s'agit d'une attaque. Mais le terme même attaque déni de service laisse à penser que c'est quelque chose de dangereux. Tous les médias ont dit les attaques de hackers qui cassent avec du déni de service. Et ça va être utilisé politiquement pour dire regardez les Anonymous qui cassent. Des gars, des clampins comme ça sont arrêtés. On dit ah, on a trouvé un des casseurs qui ceci. Et donc cette action qui est pacifiste et non violente est interprétée comme quelque chose de violent qui va justifier des politiques sécuritaires. Qui iront toujours plus loin. Donc j'ai un doute là-dessus, ça me fait un petit peu peur, à moins d'expliquer très clairement les motivations et de faire la démonstration que ces actions sont non violentes, ça risque clairement de se retourner, je pense, contre les gens qui les font. Et le problème, c'est que si on poursuit ton raisonnement en se disant « Ouais, mais je suis pas content, donc je vais faire des trucs », à ce moment-là, t'es pas content, tu vas aller tuer des gens dans la rue ou tu vas aller tuer les gens que t'aimes pas. Et je ne dis pas que c'est équivalent ou que tu prônes ce genre de choses. Mais à partir du moment où tu dis, bon, bah, y a la loi, mais après tout, moi, je m'en fous parce que je suis en colère. On a vu des exemples où ça s'est mal passé.
Je voyais plus ça vraiment comme un moyen de manifestation et de bloquer un site web, par exemple, gouvernemental. Ça s'est fait en Iran pendant la Révolution. Ça s'est fait en Tunisie. Ça s'est fait en Égypte où ils ont bloqué les sites gouvernementaux. C'est pas violent dans le sens où il y a aucun dommage humain et c'est
Non mais de toute façon enfin des formes d'action il faut qu'on en invente de toute façon voilà tous les jours il faut qu'on invente des nouvelles formes d'action et je suis pas sûr que bloquer les sites gouvernementaux tunisiens ait joué un rôle aussi important que les gars dans la rue devant le tu vois après on peut se poser la question de l'efficacité des... mais sur le fait d'inventer des nouveaux modes d'action non violents démonstratifs est basé sur Internet et sur la masse, là, je suis tout à fait d'accord. Il faut juste être prudent de ne pas prêter le flanc à... de ne pas passer pour des casseurs, quoi. Comme quand tu fais une manif, tu vois, et que tu as trois gars qui vont aller casser une vitrine et qu'au journal, tu vois juste une vitrine cassée disant, voilà, la manif violente a cassé une vitrine. Tu vois, c'est un peu ces détournements, ces instrumentalisations qui peuvent se... Je crois qu'on a largement dépassé notre toute petite minute. Et je vous remercie à tous, toutes et tous, et continuons la discussion. www.laquadrature.net, mon adresse mail à moi, c'est jz@laquadrature.net, donc n'hésitez pas qu'on continue la discussion. Et... Ah, il y en a plein.